Le grain de sable. Bonjour et bienvenue dans l'émission Le grain de sable sur Radio Canus 102.2. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour parler de la situation au Brésil avec Francis. Alors Francis qui fait notamment partie des Amis des Paysans sans terre et d'Artivisme. Et ben, je vais te laisser aussi te présenter plus si tu le souhaites.
Oui, merci. Bon, déjà, donc merci de m'inviter et bonsoir à tous. Donc je m'appelle Francis Poulet, je suis franco-brésilien et je participe donc au comité des amis du mouvement des paysans sans terre du Brésil, d'une part, et à l'association Artivisme.
Donc, qui est aussi lié au Brésil ou...
Qui n'est pas forcément lié au Brésil, mais l'idée c'est d'organiser des conférences, débats avec des concerts à la suite. Et donc voilà, en tant que franco-brésilien, j'ai souvent été au Brésil et je me suis intéressé à ces questions de... des mouvements sociaux brésiliens, de la démocratie participative, de l'altermondialisation et de tout ce qui s'est passé depuis les années Lula et Dilma.
Et donc sur la situation actuelle, donc on en sait des briques parce qu'on l'a notamment par les médias français. Donc on parlera aussi du traitement des médias dans le pays au Brésil. Donc c'est la destitution de Dilma Rousseff, la présidente, la mise en place d'un gouvernement intermédiaire. Mais tout ça, ça vient aussi des accusations de corruption, donc qui ont éclaté d'un coup, Petrobras, le Lava Jato, on y reviendra. Mais ce qui serait bien aussi, c'est de refaire un peu, remettre dans le contexte et faire un historique sur la société brésilienne, et notamment la société politique brésilienne.
Oui. En effet, donc en fait, la société brésilienne aujourd'hui, elle est héritière de toute l'histoire du Brésil, en ce sens que si ça reste un pays extrêmement inégalitaire, c'est parce que il y a une tradition presque de la corruption au Brésil. C'est pas quelque chose de nouveau, c'est pas quelque chose qui arrive maintenant. On voit ça à diverses phases de l'histoire du Brésil, donc. On pourrait citer par exemple le fait que la proclamation de la République en 1822, l'indépendance en 1822 soit le produit d'un retournement de veste d'une partie de la noblesse brésilienne, notamment du prince héritier qui allait devenir roi du Portugal et qui finalement devient empereur du Brésil. La proclamation de la République en 1889, c'est aussi un retournement de veste de la part d'une partie des puissants qui la facilite, puisque c'est un an après l'abolition de l'esclavage et que l'élite ne soutient plus un empire qui ne les protège pas. Donc il y a une proclamation de la République avec une oligarchie qui s'assure de rester au pouvoir.
Donc une élite qui a toujours été opportuniste.
Voilà, une élite assez opportuniste, assez plus intelligente peut-être que dans d'autres pays, puisqu'elle a réussi à pas se faire couper la tête. Et ensuite, donc, au début du XXe siècle, il y a toute une tradition qu'on appelle coronelismo, avec en fait, c'est des barons locaux qui s'assurent de se maintenir au pouvoir en achetant les votes, en intimidant les gens qui voudraient pas voter comme eux. Donc, on parle de courroie électorale, on parle de tout un tas de pratiques de renvoi d'ascenseur qui font que la démocratie est en fait une démocratie de papier, une démocratie des apparences.
Et avec en plus un système fédéral qui donne un grand poids aux élus locaux, qui sont notamment un peu dans leur fief.
Voilà, c'est ça. On a des pouvoirs locaux qui sont très très forts et qui négocient leurs appuis selon ce qu'ils obtiennent en retour. Donc ça, c'est limite... c'est pas ce qu'il y a de pire. Il y a aussi ceux qui s'en mettent plein les poches d'une manière personnelle, en tuant leurs opposants, etc. Mais ça, c'est encore un autre problème. On est dans une situation en fait qui était tellement sclérosée que dans les années 30, c'est un dictateur qui a imposé le droit du travail, les congés payés, etc. Et que les militaires ont fini par le faire tomber parce qu'ils faisaient trop de concessions au peuple. Dans les années 60, donc en fait entre la fin des années 40 et les années 60, il y a une parenthèse démocratique. Et déjà, il va y avoir un coup d'État militaire pour mettre un holà aux avancées proposées par le gouvernement de João Goulart. Pareil, en diabolisant, en disant qu'on est au bord de la dictature communiste, mais on sait que c'était pas le cas. Enfin bref, de 64 à 85, on a une dictature militaire qui revient à travers une transition lente, graduelle et sûre, comme l'avait dit un des généraux qui a gouverné le pays. Et donc on parle des années 80 comme des années de transition démocratique, où il y a eu d'abord la fin de la torture, ensuite la liberté de la presse, ensuite des élections municipales libres, etc., etc. En 84-85, il y avait un mouvement qui s'appelait Diretasja, qui demandait des élections présidentielles directes. Et finalement, c'est un président civil qui a été nommé par les militaires avant les élections directes pour le mandat suivant. Forcément, ce président civil, il est mort dans des circonstances mystérieuses, une maladie soudaine juste avant son entrée en fonction. Et c'est son vice-président, José Sarney, dont on va reparler, qui était du PMDB.
On peut expliquer un peu les partis.
Alors justement, donc je vais développer. Hein. Donc José Sarney, qui est du PMDB, qui arrive à la présidence sans se faire élire. Donc le PMDB, c'est le parti du Mouvement démocratique brésilien. Et en fait, c'était le nom de l'opposition légale, Mouvement démocratique brésilien, pendant la dictature. Donc c'est une opposition, mais pas radicale au régime militaire. Et donc le PMDB, c'est la grosse machine du retour à la démocratie, c'est la grosse machine électorale, puisque c'est le parti qui existait déjà pendant la dictature.
Et donc, qu'on pourrait qualifier de...
Alors au Brésil, ils ont un mot pour ça. Ils ont un mot pour ça, et ils disent que c'est un parti physiologique. C'est-à-dire, en fait, je pense, on dirait corporatiste, où en fait les gens aident les gens qui les aident, renvoient d'ascenseur, etc. C'est un parti qui se donne une apparence d'être de centre. S'ils disent de centre, alors donc voilà, ils sont alliés avec, quand la droite est à la mode, ils sont alliés avec la droite. Quand la gauche est à la mode, ils sont alliés avec la gauche. Et comme ça, ils ont été de toutes les majorités depuis le retour de la démocratie.
C'est plus dans ce sens-là, c'est un ventre mou qui.
C'est un espèce de ventre mou où il peut y avoir des décisions qui sont parfois que je qualifierais d'extrémistes, qui sont prises par certains de ses membres. Donc oui, on pourrait dire centre, mais avec des gros guillemets. Et donc, on a un premier président PMDB qui s'appelle José Sarney. Retenez bien ce nom parce qu'on va en reparler. José Sarney, il vient d'avoir un juge qui a demandé qu'on le mette en prison, en fait, avant-hier. Bref, on va y revenir. Ensuite, après les premières élections présidentielles, il y a une alliance sacrée contre Lula, et c'est un petit candidat...
Lula qui avait été élu...
Donc Lula, qui était le syndicaliste pendant la transition démocratique et qui devient la grande figure de la gauche dans les années 90, perd plusieurs fois les élections présidentielles avant de les gagner en 2002. Et donc, dans un premier temps, il gagne face à un président qui s'appelle Collor et qui, lui, va être destitué pour corruption. Donc, il y a un premier processus d'impeachment.
Donc c'est pas la première fois que
le Brésil utilise la procédure d'impeachment, qui est la même procédure qui avait été utilisée avec succès contre Nixon et sans succès contre Clinton. Vous vous souvenez de l'affaire Lewinsky. Bref, avec la chute de Fernando Collor, on a un deuxième vice-président du PMDB qui accède au pouvoir. Donc on a un deuxième président PMDB. Et donc, bref, après, il y a Fernando Henrique Cardoso, Lula, et maintenant avec Dilma Rousseff, qui est obligée de céder le pouvoir à son vice-président. C'est le troisième président du PMDB qui est nommé parce que le président est empêché.
Et sans élection.
Sans élection. Alors, on pourrait... Ça, c'est un débat, puisque le vice-président, en fait, est élu avec le président pendant la campagne électorale. Les gens savent bien que c'est un ticket, quoi.
Mais c'est dans le cadre de coalition aussi.
Alors voilà, c'est dans le cadre de coalition. Et en fait, le problème principal, il n'est pas que le vice-président prenne la place de la présidente dans le cadre d'une procédure d'impeachment. Ça, c'est ce que disent les textes de loi. Et c'est pas ce principe qu'on remet en cause, quelque part. Ce qu'on remet en cause, c'est que les prétextes sur lesquels elle a été retirée du pouvoir semblent fallacieux, d'une part. Et d'autre part, que ce vice-président qui s'est fait élire sur un ticket avec des partis de gauche lâche les partis de gauche, fait une nouvelle majorité avec les partis qui avaient perdu l'élection et met en place une politique en urgence alors qu'il a un gouvernement intérimaire qui est censé ne durer que pendant le temps du procès de Dilma Rousseff.
Oui, là, il y a quand même des règles, c'est un gouvernement intermédiaire, il est sur une durée voilà, temporaire.
Voilà.
Et comme il n'avait pas de programme, vu qu'il n'a pas été élu, à part, on va dire, gérer les affaires...
Voilà, on pourrait penser que si vraiment elle était mise en examen pour les raisons qui sont avancées, qui sont un crime de responsabilité, comment ils appellent ça ? Crime de responsabilité, hein, puisque c'est ou haute trahison ou crime de responsabilité, et donc ils ont décidé que les pédalages fiscaux constituaient un crime de responsabilité. Et le pédalage fiscaux, qu'est-ce que c'est ? C'est le fait de... faire des astuces budgétaires pour présenter le budget sous un jour plus favorable, donc emprunter de l'argent aux banques et le payer plus tard. Donc Dilma Rousseff n'est pas accusée de s'être enrichie personnellement, elle est accusée d'avoir fait cette pratique de pédalage budgétaire, donc d'avoir camouflé l'ampleur de la crise brésilienne, l'année de sa réélection, et donc c'est pour cela qu'elle est mise en procès.
Et c'est que un peu globalement, on a l'impression qu'il y a un amalgame, comme on a beaucoup parlé, corruption, Petrobras,
voilà.
Que c'est à cause de ça.
Alors en fait, ils n'ont pas réussi à trouver de preuves contre elle dans l'affaire Petrobras. Elle n'est pas mise en examen dans l'affaire Petrobras. Et la question des pédalages fiscaux, c'est une pratique qui a été effectuée par tous les présidents de la République brésilienne depuis la transition démocratique et qui a été effectuée par 20 des 26 gouverneurs d'État. Ces derniers temps là dans la fédération brésilienne. L'affaire Petrobras, donc, qui est le grand scandale qui secoue le Brésil en ce moment, c'est peut-être ça qui est à l'origine de ces déboires. Alors pourquoi ? Parce que il y a un énorme ras-le-bol au Brésil, on le sent depuis 2013 puisqu'il y a eu les grandes grèves au moment où il y a eu une augmentation du prix des transports en commun. Grande grève qui était au départ des grèves des gens qui trouvaient que le prix du bus était trop cher, mais qui ensuite ont été ils ont été rejoints par tous les gens qui avaient un ras-le-bol, et tout d'un coup on se retrouve par ceux qui ont un ras-le-bol du gouvernement parce qu'il fait pas assez pour les pauvres, et ceux qui ont ras-le-bol du gouvernement parce qu'il fait trop pour les pauvres.
Et dans un contexte aussi de crise économique.
Dans un contexte de crise économique, c'est-à-dire que l'opposition se rend compte que Dilma Rousseff perd ses appuis et essaye d'en profiter en rejoignant les opposants, tous les opposants, en essayant de faire la jonction de tous les opposants à Dilma Rousseff, même si cette opposition, elle n'est pas pour les mêmes raisons pour tout le monde. Alors ça, c'est les grands mouvements de juin qui vont aussi s'essouffler parce que justement l'opposition de gauche ne veut pas se retrouver dans les mêmes manifs que l'opposition de droite. Et c'est ce qui va faire que certains mouvements vont arrêter d'appeler à manifester. Et c'est ce qui va faire que le mouvement de 2013 va s'essouffler. Mais par contre, ce mouvement, c'est le mouvement de la renaissance pour la droite brésilienne qui se dit « Ah ben cette fois-ci, on va retourner au pouvoir, on va gagner les élections à partir de ce moment de juin 2013. » Et puis quand, en octobre 2014, Dilma Rousseff se fait réélire, c'est un petit peu une grande déception pour cette droite brésilienne. Et dès la semaine de sa réélection, il y a déjà des tentatives de trouver des raisons de la faire destituer. Donc on cherche des accusations de corruption, et puis il y a une grande concentration des médias au Brésil. La plupart des grands médias appartiennent à quelques familles très puissantes. Donc il y a par exemple les organisations Globo qui tiennent la télé Globo, mais aussi une chaîne info sur le câble, des organes de presse. Il y a l'Editora Abril qui a le journal Veja, qui est une espèce de Fox News à la brésilienne, un espèce de torchon vraiment qui n'a aucun engagement envers la vérité et qui se contente de chercher à salir tout ce qui peut être vaguement social, quoi. Et on a aussi donc les organisations Frias, la famille Frias qui détient la Folha de São Paulo, enfin bref, il y a un certain nombre de... Et puis il y a la Record qui appartient aux églises évangéliques. Bref, on a les grands médias qui sont majoritairement dans les mains de quelques-uns, et du coup on n'a pas vraiment un pluralisme d'opinion. On a 2-3 journaux qui apportent un autre son de cloche, mais ils n'ont pas vraiment de...
Ils n'ont pas la même audience.
Voilà, ils n'ont pas vraiment la même audience.
Il y a les mêmes capacités, forces.
C'est ça, c'est ça. Il y a des journaux comme Brasil de Fato, qui est soutenu par les syndicats, Carta Capital, qui est un journal un petit peu plus modéré, on va dire, etc., etc. Mais c'est des journaux qui sont un petit peu marginalisés par le discours ambiant, le discours dominant, qui va... répéter un petit peu toujours le même mantra, c'est que la corruption au Brésil, c'est la faute du Parti des Travailleurs. Et c'est un argument qui est, dans un sens, recevable, puisque le Parti des Travailleurs est à la présidence depuis 2002. Donc c'est vrai qu'à un moment, on peut plus dire « ben non, c'est pas nous, nous on vient d'arriver ». Non, non, le Parti des Travailleurs est aux commandes, c'est le quatrième mandat à la suite pour un président du Parti des Travailleurs. Il y a eu deux fois Lula, et là c'est la deuxième élection de Dilma. Donc ils ne peuvent pas jouer les vierges effarouchées, nier faire partie du problème.
Par contre, ni ne pas avoir pu ne pas rentrer dedans.
Voilà, parce ils auraient pu lutter contre la corruption d'une manière plus efficace, peut-être. Voilà. Et ils ont en partie lutté contre la corruption, mais il y a une autre partie du parti qui s'est vautrée dans la corruption. C'est-à-dire qu'il y a eu un scandale, donc, qui s'appelle le scandale du Mensalão. Et en gros, on a compris comment Lula faisait pour faire voter ses lois. C'est-à-dire qu'en fait, au Brésil, il y a un système de proportionnel à l'Assemblée législative, et le Parti des Travailleurs est très loin d'avoir une majorité. Ils ont genre 90 députés sur 500. Du coup, qu'est-ce qu'ils ont fait? On s'est rendu compte qu'ils payaient un certain nombre de députés pour qu'ils acceptent de voter les projets du gouvernement. Donc tous les projets de lutte contre la faim, tous les projets du gouvernement Lula qui ont eu tant de succès, qui ont aidé à sortir des gens de la misère, c'est des projets qui ont été approuvés parce qu'on achetait des députés. Et comment on achetait ces députés? Avec une caisse noire, et cette caisse noire, c'était l'argent de l'industrie pétrolière. Donc on se rend compte en fait que c'est la Petrobras qui servait au financement des partis politiques. Donc du coup, l'idée c'est, à cause de cette histoire de Petrobras, on a trouvé un moyen de faire tomber le PT, et les juges, donc... sont en train de travailler à mener l'enquête et en train d'essayer d'arrêter les politiciens corrompus par rapport à cette histoire de corruption au sein de la Petrobras. Sauf que finalement, c'est pas si simple que ça, et on se rend compte que bien sûr, il y a de la corruption au sein du Parti des Travailleurs, mais il y a énormément de corruption au sein du PMDB, au sein du PP, au sein du PSDB, enfin bref, que donc le PP, c'est le parti progressiste qui, comme son nom ne l'indique pas, est un parti de droite. Et le PSDB, c'est le parti de la social-démocratie brésilienne, qui, comme son nom l'indique peut-être, est un parti de droite aussi. Et donc, il y a tous ces partis qui sont tous mouillés dans la corruption. Donc tout à coup, il y a cette grande opération Petrobras qui arrive en fait à point nommé. C'est-à-dire que effectivement, il y a un scandale de corruption qui est réel, etc., etc. Mais ce n'est pas innocent que ce scandale éclate au moment où on a découvert du pétrole au Brésil. C'est-à-dire qu'en fait, les appétits pour le marché du pétrole sont aiguisés, et un scandale à la Petrobras, c'est aussi un moyen de dire « cette entreprise est pourrie, il faut la privatiser pour assainir la situation ».
Donc c'est un moyen de
vendre les bijoux de famille à l'étranger. Alors, donc il y a toute une partie de la gauche qui pense, qui crie à la théorie du complot, comme ça, qui dit que bah non, ils veulent inventer des scandales de corruption pour privatiser la Petrobras. Alors bien sûr, la corruption, elle existe vraiment. Bon, après, que la droite a envie de privatiser la Petrobras, c'est dans l'ordre des choses. Mais la corruption, elle existe vraiment. Le Parti des Travailleurs est vraiment corrompu, comme le Parti du Mouvement Démocratique Brésilien, le PSDB, etc., etc. Le problème dans toute cette histoire, c'est que l'appareil médiatique dominant, il va insister sur la corruption du PT, la corruption du PT, la corruption du PT, la corruption du PT, comme si le PT voulait dire corrompu. Et on se retrouve avec une partie de l'opinion publique qui est persuadée que si on est au bord de la dictature, c'est parce qu'on est au bord d'une dictature du Parti des Travailleurs, qui veut s'inspirer de Cuba, qui veut s'inspirer de Hugo Chavez au Venezuela, qui veut instaurer une espèce de communisme, que le ministère de la Culture subventionne les artistes, c'est pour ça qu'il y en a autant qui sont de gauche, etc., etc. Et par rapport à ce discours, il y a un mouvement qui commence à naître pour l'impeachment de Dilma Rousseff. Donc l'idée est donc de faire destituer Dilma Rousseff.
Et revenir à reprendre la main, ce qu'ils n'ont pas pu faire en
2014. Faire en 2014. Donc dans un premier temps, la gauche s'alarme pas trop, dit bah voilà, c'est l'élite brésilienne qui cherche à reprendre le pouvoir. Mais il n'y a pas de fondement, etc. Sauf qu'au fur et à mesure que, d'une part, la corruption augmente les scandales de corruption augmentent, et d'autre part, la situation économique s'affaiblit, il y a de moins en moins de soutien pour Dilma Rousseff. Et moins il y a de soutien pour elle, forcément, plus elle est fragile. Elle est obligée de faire donc une coalition très large avec une douzaine de partis. Et le président de l'Assemblée législative est un de ses plus fervents opposants. C'est-à-dire qu'en 2014, elle a gagné la présidentielle, mais l'Assemblée législative, par contre, c'est vraiment pas une bonne nouvelle pour le Parti des Travailleurs. Ils ont très peu, encore moins de députés qu'avant, et puis surtout, il y a un renforcement de la droite la plus conservatrice, notamment les députés évangélistes, etc., etc. Du coup, le président de l'Assemblée législative, c'est un type qui s'appelle Eduardo Cunha et qui va essayer de faire de bloquer un petit peu toutes les actions que veut faire Dilma Rousseff et faire passer des projets de loi. Alors pour par exemple, l'avortement est déjà illégal au Brésil, mais lui il veut carrément que ce soit illégal pour les femmes violées de se faire avorter. Donc une femme qui serait violée serait obligée d'élever l'enfant de son violeur. Parce que vous comprenez, le viol c'est mal. Pardon, c'est évident que le viol c'est mal, mais que l'avortement c'est pire que le viol selon ces chrétiens évangéliques. Donc il y a ce genre de mesures ultra conservatrices, et puis aussi des mesures qui veulent la réduction de la majorité pénale pour que donc à moins de 18 ans, à 16 ans, on puisse être mis en prison comme si on était déjà majeur. Bon, ça, c'est quelque chose qui fait énormément débat au Brésil, puisqu'il y a des mineurs délinquants, il y a des mineurs criminels, etc.
On est vraiment sur des questions de société.
Mais c'est des questions de société, voilà.
On n'est pas sur des mesures économiques.
Alors non, puisque, en fait, en termes de mesures économiques, justement, c'est ça le problème de la droite brésilienne, c'est que si on dépend des mesures économiques néolibérales, des mesures économiques de droite, on ne peut pas se faire élire. Donc, du coup, ils prennent les questions sociétales ou sociales pour se faire élire, puisque c'est la gauche qui a réussi à séduire avec ses questions sociales. Parce que la gauche, elle se faisait élire sur ses questions sociales, mais aussi parce qu'elle ne proposait pas de légaliser l'avortement, parce qu'elle ne proposait pas toute cette ouverture au niveau des mœurs qu'il y avait au sein de la société brésilienne. Bref, on a donc Eduardo Cunha qui prend le pouvoir au sein de l'Assemblée législative et qui a toute une armée de députés à son service. Alors une partie, c'est parce qu'il partage son idéologie, et une autre partie, c'est parce qu'Eduardo Cunha a des dossiers sur tout le monde, sait qui est corrompu et pourquoi, protège ses alliés et attaque ses adversaires. Et ça, c'est quelque chose d'explicite, puisque quand Eduardo Cunha a été accusé de corruption, il a dit « si je tombe, je fais tomber la République avec moi ». Et c'est pour ça qu'il a mis autant de temps à perdre son poste, en fait. C'est-à-dire que en décembre 2015, il y a un conseil d'éthique du Sénat qui se réunit pour savoir qu'est-ce qu'on fait d'Eduardo Cunha. Et le Parti des Travailleurs refuse de soutenir Eduardo Cunha. Et c'est ce jour-là qu'Eduardo Cunha signe la recevabilité du processus d'impeachment contre Dilma Rousseff. C'est-à-dire que c'est clairement une vengeance parce que le Parti des Travailleurs a refusé de le protéger qu'il décide de mettre en place l'impeachment de Dilma Rousseff. Et donc Dilma Rousseff, elle est extrêmement impopulaire puisque sa politique est un échec, que énormément de gens sont accusés de corruption et que elle, si elle n'est pas accusée de corruption, est jugée comme responsable. Alors non seulement parce qu'elle est présidente de la République, donc que les affaires de financement de campagne, même si c'était pas elle la trésorière, c'est elle qui en a bénéficié puisque c'est elle qui s'est fait élire. Mais aussi
elle
parce que
vous êtes au courant aussi comme.
Oui, voilà. Mais l'autre raison, c'est aussi qu'elle a été présidente de la Petrobras pendant plusieurs années. Et donc, pareil, elle était censée être au courant. Comment pouvait-elle ne pas savoir, etc., etc. Alors, bon, voilà. Il y a ceux qui pensent qu'effectivement, elle ne savait pas. En tout cas, qui disent qu'ils pensent qu'elle ne savait pas. Et t'as ceux qui pensent qu'elle savait, mais que comme pour pas mal de choses au Brésil, on a beau savoir qu'il y a de la corruption, on peut... ou on fait avec, on essaie d'avancer, de travailler de la manière qu'on peut, ou on la dénonce et puis on meurt. Ou on se fait éloigner du pouvoir. Donc Dilma Rousseff a essayé de faire tomber un petit peu des têtes, mais ça n'a fait que lui créer plus d'ennemis. Et c'est comme ça qu'elle s'est retrouvée dans la situation dans laquelle elle était.
Et on se retrouve après une pause musicale.
Uma história que acontece todos os dias nas favelas, morros e periferias. Trabalhador que morre com uma bala perdida é mais um pai de família que perdeu sua vida. Menina nova por dinheiro se prostituindo, quer vida fácil, ré, vai se iludindo. Enquanto isso o playboy vive na boa, viaja pro exterior, gasta dinheiro à toa. Povo sorrindo, achando tudo lindo. Escravidão de sol a sol, domingo a domingo. Salário mínimo, sem reclamação. Não quer criar problema, nem irritar o patrão. Mundo cão, um dia terá de mudar. Jesus irá voltar pra revolucionar. Que é pra mandar todos os problemas que um dia eu vi. É, pra uma cidade muito longe
numa
daqui.
Uma cidade muito longe daqui. Que tem favelas que parecem as favelas daqui. Que tem problemas que parecem os problemas daqui. Existem homens maus, sem alma e sem coração. Existem homens da lei com determinação. Mas o momento é de caos, porque a população, na brincadeira sinistra de polícia e ladrão, não sabe ao certo quem é herói ou vilão. Não sabe ao certo quem vai, quem vem na contramão.
Ele é o certo no lugar errado.
Não sabe ao certo quem é. Sabe ao certo quem vai, quem vem na contramão. Porque tem homem mau que vira homem bom. Porque tem homem mau que vira homem bom. Quando ele banca o remédio, quando ele compra o feijão, quando ele tira pra dar, quando ele dá proteção. Porque tem homem da lei que vira homem mau. Porque tem homem da lei que vira homem mau. Quando ele caga no pau, quando ele tem que salvar e sai matando geral.
Sai matando geral.
Não é o fim da guerra, essa é a única certeza.
E tanto lá como cá, ladrão que rouba ladrão, não tem acerto, é pedido, errou, não tem perdão. Quem fala muito é X9, mas o X do problema tá na corrupção. Vai vendo, um dia o bicho pegou, o couro comeu. E aí, meu compadre, foi a Vera, daquele jeito, vagabundo.
Bateu de frente um bandido e um subtenente lá do batalhão. Foi tiro de lá e de cá, balas perdidas no ar, até que o silêncio gritou, dois corpos no chão, que azar.
Et donc on vient d'écouter, dis-nous.
Alors c'est un duo entre le rappeur brésilien Rapping Hood et le chanteur de samba Arlindo Cruz. Et donc c'est une chanson qui parle donc de ils disent très loin d'ici, mais en fait c'est pour dire exactement la situation qu'ils vivent eux-mêmes. Donc on voit le bandit qui peut être bon quand il achète des médicaments avec l'argent qu'il a volé. Et l'homme de bien qui peut être mauvais quand le flic ripou, par exemple, fait des bavures policières. Donc t'as cette chose sur l'ambiguïté morale qu'on peut retrouver au sein de la société brésilienne.
Et donc on revient, donc on s'était arrêté donc juste avant la cette chanson sur la, bah, le processus, enfin, quand on a appuyé sur le bouton pour la destitution de Dilma Rousseff. Donc ça s'est passé comment, qu'il décide, est-ce que c'est justement juste le Eduardo Cunha qui a décidé, ou est-ce qu'il y a quand même un vote à un moment, parce qu'on revient sur une décision qui a été prise par par les électeurs.
Donc bien entendu,
quel est l'impact?
Alors bien entendu, il y a eu un vote, puis aussi il y a énormément de sondages qui disent que la présidente de la République est extrêmement impopulaire. Elle aurait, un petit peu comme François Hollande, elle aurait très peu de soutien au sein de la population. Et elle est jugée, puisqu'elle est présidente de la République, comme responsable de la situation actuelle en général. Donc du coup, comme il y a cette opération Lavajato qui est en train de condamner de plus en plus de politiciens, l'idée c'est que il faut que ça la condamne aussi. Donc c'est une idée qui est tout à fait compréhensible et qu'en même temps qui est un petit peu une aubaine.
Après, la condamner, ça veut dire aussi reprendre le pouvoir, reprendre la main et
exactement,
peut-être pouvoir se protéger.
Exactement, qui est une aubaine pour ceux qui se disent, bah voilà, on va prendre un bouc émissaire et puis on va sacrifier ce bouc émissaire pour pouvoir continuer comme avant. Donc ça, c'était un petit peu ce que disaient les partisans de Dilma Rousseff. Ils veulent la virer pour enterrer les affaires et c'est ce qui a été confirmé dans les faits. Dans ces dernières semaines. Donc l'affaire Lavajato, on a un type qui s'appelle le juge Moro, qui est le juge qui fait mettre en prison les corrompus.
Qui donne un peu l'impression d'être le chevalier blanc.
Qui se présente un petit peu comme un chevalier blanc. Mais surtout, ce qui se passe, c'est qu'il met en prison les accusés en leur disant, de toute façon, tu vas être condamné, et si tu veux avoir une réduction de peine, si tu veux avoir la moindre chance, il faudrait que tu dénonces tes complices. Et donc, il y a un système qu'ils appellent dénonciation primée, où les criminels, donc qui sont pris en flagrant délit, sont invités à dénoncer leurs complices pour obtenir des réductions de peine. Et c'est dans ce cadre-là que la République tremble, puisqu'il y a 60% des députés qui sont cités dans l'affaire Lavajato. Non, pardon. Il y en a peut-être moins, mais il y a 60% de députés qui sont cités dans une affaire de corruption, quelle qu'elle soit, pas forcément la Lavajato. Et 40% du Sénat, enfin bref, c'est un truc énorme. Donc du coup, il y a cette idée que peut-être que l'impeachment de Dilma, c'est un moyen de sacrifier la plus impopulaire et ensuite d'enterrer les affaires. Donc, c'est un petit peu ce que disent Dilma et ses partisans, ce que dit donc aujourd'hui le Parti Travailleur, le Parti démocratique travailliste,
et
le
les
Parti
mouvements sociaux, ils se positionnent.
Et alors, ce qui est intéressant aussi, c'est que les mouvements sociaux qui étaient extrêmement critiques envers Dilma, puisqu'elle ne faisait pas une politique de gauche, puisqu'elle ne faisait pas la réforme agraire pour les paysans sans terre, elle n'améliorait pas le droit des travailleurs pour les syndicats, etc., etc., tous ces mouvements sociaux se retrouvent à faire bloc autour de Dilma au nom de la démocratie contre le coup d'État parce qu'ils ont peur de ce qui va arriver. Ils ont peur que sans Dilma, on ait une politique beaucoup plus répressive, qu'on ait une politique ultra-libérale.
C'est qu'il y a un vrai enjeu au Brésil aussi sur la criminalisation des mouvements
sociaux.
Voilà,
donc par exemple, il y a la peur de la criminalisation des mouvements sociaux. Et puis il y a aussi toutes les mesures que la droite rêve de faire, qui disent dans leur campagne et qu'ils ont envie de faire, qui font que finalement les gens préfèrent, enfin en tout cas cette catégorie de la population, les mouvements sociaux, préfèrent soutenir Dilma que ses opposants. Donc du coup on a une polarisation de la société avec des manifestations pour l'impeachment de Dilma qui sont extrêmement médiatisés, la TV Globo les passe en direct en entier, en disant la veille, allez à la manifestation, et puis des manifestations pour le maintien de la démocratie, contre le coup d'État, qui sont présentées par les médias comme étant des manifestations du Parti des Travailleurs, contre l'impeachment, par corporatisme en fait. Et qui sont elles beaucoup moins médiatisées, montrées qui sont pas filmées par exemple, qui sont pas passées en direct pendant plusieurs heures à la télé. Du coup, Qu'est-ce qui se passe? On veut maintenir les apparences d'une transition démocratique, on veut maintenir les apparences d'un certain légitimisme, d'une certaine légitimité. Et du coup, l'idée, c'est qu'on ne fait pas un vrai coup d'État avec des militaires, des tanks dans la rue, etc. On fait la procédure d'impeachment comme elle doit être faite. Sauf que le pédalage fiscal considéré, donc c'est le maquillage des comptes en fait, considéré que le maquillage des comptes c'est un crime comparable à l'autre trahison, c'est déjà tiré par les cheveux. Et puis il y a tout un autre tas d'irrégularités pendant tout le long du processus. Par exemple, le processus de destitution de Dilma est dirigé par Eduardo Cunha, qui est mis en examen, accusé d'avoir un compte en Suisse, un compte au Panama, détourné des dizaines de millions de dollars. Et le procureur général de la République avait requis 180 ans de prison contre lui l'année précédente. Et il était non seulement...
Il n'y a pas d'impeachment pour lui.
Il n'y a pas eu d'impeachment. Il s'est fait virer depuis quelques semaines. Mais au moment de l'impeachment de Dilma, au moment du vote à l'Assemblée législative, c'était lui qui a dirigé ce vote. Et qu'est-ce qu'il a décidé? Il décidait que chacun des députés devait justifier son vote en faisant une grande retransmission télévisée depuis l'Assemblée législative. Et donc le jour du vote où il fallait que deux tiers des députés décident, si deux tiers des députés le décidaient, la procédure d'impeachment suivait au Sénat, ça a été un vote qui a été télévisé avec chacun des députés qui devait venir prendre la parole devant les caméras pour expliquer son vote. Donc, dans ce cadre-là, face à l'impopularité de Dilma, on peut penser que c'était aussi une manière de faire pression sur les députés indécis pour qu'ils soient du côté des manifestants dans la rue qui réclamaient la démission de la présidente et pas forcément en train d'examiner la recevabilité juridique de la décision.
On avait l'impression que c'était aussi une pression pour un retour au calme ou à une certaine stabilité.
Voilà,
c'est alors ça. Alors qu'au final, on se rend compte qu'il y a une vraie responsabilité par rapport à une division de la société. Je crois qu'on avait parlé un jour de racisme, enfin exacerbé, de racisme de classe.
Exactement, on a pu voir un petit peu le racisme de classe, parce que donc, ce jour-là où ils ont chacun l'opportunité de dire une petite phrase, on se rend compte du niveau des débats, quoi. Hein, c'est-à-dire que il y a des députés qui vont simplement dédier leur vote aux militaires tortionnaires qui ont torturé Dilma Rousseff pendant la dictature militaire, par exemple. Il y a ceux qui vont dire que c'est au nom de la patrie, au nom de leur famille, au nom de leur petit enfant qui vient de naître, contre la corruption. Puis ce qui est marrant, c'est qu'en général, ceux qui parlent de la corruption, c'est ceux qui se font arrêter la semaine
suivante. C'est ceux qui la connaissent le mieux.
C'est ceux qui se font arrêter la semaine suivante. Il y a plusieurs députés qui ont parlé devant les caméras du fléau de la corruption et qui se sont fait arrêter dans les semaines suivantes. C'est assez... voilà, ironique. Et donc, Dilma Rousseff perd. C'est-à-dire qu'il y a plus de deux tiers des députés qui demandent qu'il y ait une procédure d'impeachment. Sachant qu'il y en a quelques-uns qui disent on ne demande pas à ce qu'elle se fasse virer, on demande qu'elle soit jugée. Peut-être qu'elle ne sera pas condamnée à l'issue de ce jugement. Donc ça passe au Sénat, et au Sénat aussi, une majorité simple, alors par contre ils avaient besoin d'une majorité simple pour ça, une majorité des sénateurs vote la procédure d'impeachment, et donc pendant 180 jours, un gouvernement de transition dirigé par le vice-président de la République assure l'intérim, et Dilma Rousseff est jugé par une commission formée de...
Et ça en parallèle.
De gens des deux chambres. Voilà, et ça n'a pas encore commencé. Mais bon, l'idée, c'est qu'ils ont 180 jours pour faire le procès de Dilma Rousseff. Si elle a quitté, elle revient au pouvoir. Si elle est condamnée, elle ne revient pas au pouvoir. Et donc, en fait, là, ce qui montre à quel point c'était une magouille, c'est que le gouvernement intérimaire, ce n'est pas la continuité du gouvernement de Dilma Rousseff. C'est une nouvelle coalition dont sont absents le Parti des Travailleurs, le Parti démocratique travailliste et le Parti communiste brésilien, qui faisait partie de...
Et également les femmes
Alors, en plus, il n'y a plus de femmes, il n'y a plus de noirs, etc. Et puis, donc, comment ils font une nouvelle majorité? Ben justement, en s'alliant avec les forces les plus réactionnaires et en leur donnant des gages. Donc, par exemple, l'absence de femmes, l'absence de noirs, c'était un signe envoyé peut-être aux, aux plus conservateurs, leur montrer que c'était, eux qu'on draguait. Donc non seulement il n'y a plus de femmes, il n'y a plus de noirs, mais ça c'est, c'était prévisible, mais en plus il n'y a, plus de ministère des droits des minorités, des droits des femmes, voilà, il y a plus, c'est tout sous l'égide du ministère de la Justice. Et le ministère de la Justice, il est confié à un ancien secrétaire de la sécurité de São Paulo qui est accusé d'avoir couvert les escadrons de la mort. C'est-à-dire, c'est quand des flics ripoux vont dans les favelas et tuent des dizaines de personnes de manière masquée. Et on sait que c'est des flics ripoux, mais que le secrétaire de São Paulo a fait enterrer l'affaire. Quoi. Donc c'est lui qu'on nomme ministre de la Justice. C'est un type qui a dit que les manifestations contre l'impeachment, c'était du terrorisme. Quoi. Et le ministre de la Justice. On décide que le ministère de la Culture, bah c'est trop, quoi, voilà.
Il
n'y en a pas besoin. La culture, ce sera avec le ministère de l'Éducation. Ça, c'est vraiment pas passé. Ils ont dû reculer au bout de 3 jours parce que tous les artistes étaient dans la rue, tout le monde trouvait que c'était absurde cette histoire de pas avoir le ministère de la Culture. Et du coup, ça a été donc déjà au bout de 3 jours, ils ont eu un premier recul. Et puis au bout de 5 jours, il s'est passé une deuxième chose intéressante, c'est qu'il y a eu une fuite dans la presse d'une conversation qui avait été enregistrée par téléphone. Alors c'est pas une écoute faite par l'État, c'est un corrompu qui enregistre ses conversations téléphoniques pour dénoncer ses collègues et avoir une réduction de peine. Et donc, en fait, c'est un des politiciens de... c'est pas un politicien, c'est un des gérants d'une des entreprises de pétrole qui servait à financer les campagnes électorales avec leur caisse noire, qui est au téléphone avec un des types qui va devenir un des principaux ministres du gouvernement de Michel Temer, le vice-président intérimaire. Et ce type, qui s'appelle Romero Jucca, dit « ça, c'est pas tenable, la République va tomber, on va tous tomber si on garde Dilma Rousseff, il faut enterrer les affaires, donc qu'il y ait un impeachment. J'ai parlé aux juges et aux militaires. On va surveiller le mouvement des sans-terre pour pas qu'il y ait d'esclandre. On va réussir à faire tomber Dilma Rousseff. Alors, il y en a qui n'aiment pas Michel Temer parce que Michel Temer est dans la poche de Cunha. Mais de toute façon, Cunha, il est mort. Donc voilà, il faut que ce soit Michel Temer le président. Donc il y a cette conversation qui dure 1 heure, qu'on peut trouver sur Internet. Je veux dire, l'audio a fuité, on peut l'écouter, on peut lire la transcription. Et voilà.
Donc il y a cette... qui est vraiment clair. On est dans la merde.
On sait que le type a confirmé qu'effectivement, il s'était mis d'accord. Il a cité les noms des autres personnes avec lesquelles il s'était mis d'accord. Il expliquait comment avait fonctionné un petit peu ce projet de faire tomber Dilma Rousseff. Et il se passe rien, c'est-à-dire que le type est éloigné du pouvoir comme s'il avait simplement fait une gaffe, quoi, comme s'il avait dit un truc qui se dit pas. Dans un premier temps, il se passe rien. Sauf qu'avant-hier, il a été mis en examen. En fait, le procureur général de la République a demandé qu'il soit mis en prison. Donc lui, l'ancien président de l'Assemblée législative, l'ancien président de la République José Sarney, dont on parlait tout à l'heure, et le président du Sénat, Renan Calheiros. Donc, c'est 4 grandes figures de la politique brésilienne, et comme par hasard, c'est 4 grandes figures du PMDB. Alors, bien sûr, c'est le procureur de la République qui demande. Ça ne veut pas dire que la Cour suprême va accepter cette demande, mais n'empêche que le procureur de la République a demandé que ces 4 personnalités soient mises en prison pour pas qu'elles ne puissent chercher à enterrer des affaires. Les affaires de la Petrobras. Donc, on arrive vraiment dans une situation où c'est vraiment... je ne comprends pas comment les gens continuent à dire que ce n'est pas un coup d'État. Alors, effectivement, il n'y a pas des chars dans la rue, il n'y a pas d'opposants politiques qui se font abattre à coups de Kalachnikov, mais c'est quand même... c'est pas le respect des principes institutionnels. C'est une magouille, on peut le formuler, on peut mettre un autre mot si les gens n'en veulent pas le mot coup d'État, mais ce n'est pas une situation normale.
Et la question aussi, donc, il y a un certain nombre de ministres, je crois qu'il n'y en a pas qu'un seul, qui est des nouveaux des ministres de ce gouvernement intérimaire.
Oui, de toute façon, il a nommé 7 ministres qui étaient déjà mis en examen. D'ailleurs, le vice-président lui-même est inéligible pendant 8 ans face par rapport au dépassement de campagne électorale. Donc c'est n'importe quoi, c'est vraiment la mafia qui a pris les rênes du pouvoir pour enterrer les affaires. Je veux dire, à un moment on en a plein de preuves. Le problème c'est que les juges, c'est eux qui sont corrompus. Donc c'est pour ça que ça avance pas. Mais sinon, c'est de notoriété publique, on peut trouver les preuves de partout, elles sont dans la presse, elles sont voilà quoi. Mais il y a une mauvaise foi, il y a ceux qui considèrent que la vraie corruption c'était d'acheter les voix des pauvres en faisant des programmes sociaux. Il y a quand même ce genre d'argument, on entend ce genre d'argument, quoi. Que les programmes sociaux de Lula, c'était pour ça qu'il se faisait élire. Il achetait les voix des pauvres pour se maintenir au pouvoir. C'est quand même, enfin, à un moment, quand on fait un gouvernement qui sort la population de la misère, on n'appelle pas ça acheter les voix des pauvres, quoi. C'est un petit peu n'importe quoi.
Et le gouvernement intérimaire, à part ses déboires, là, notamment par rapport au ministre, accusé de corruption, est-ce qu'on disait tout à l'heure qu'il avait aussi déjà essayé de mettre en œuvre des politiques
oui, effectivement.
Extrêmement dures.
Effectivement.
Alors c'est pas forcément son rôle en tant qu'intérimaire.
En tant que ministère intérimaire, c'est très étrange de voir en fait qu'il y a un virage à 180 degrés par rapport à la politique du gouvernement précédent. Alors effectivement, eux ils diront que c'est parce que la politique du gouvernement précédent a mené à la crise qu'il fallait faire un virage, mais n'empêche qu'il n'y a pas eu. Il n'y a pas eu de nouvelles élections et donc pourquoi il y a une alternance politique, quoi. Donc ça c'est une des choses qui fait qu'il y a un mouvement qui s'organise contre Michel Temer avec le slogan Fora Temer. Et donc les différentes mesures qu'il a prises qui ont choqué énormément le monde, c'est les suivantes. Donc c'est on voit qu'il est en train de préparer la privatisation de la Petrobras. Il est en train de faire des mesures d'austérité encore pires que ce qu'il y avait avant. Il parle au niveau de l'éducation de faire un projet de loi qui s'appellerait École sans parti, parce que vous comprenez, il y en a assez de ces professeurs qui font de la propagande communiste à l'école. Donc alors là, pareil, c'est assez hallucinant. Moi, j'ai vu une interview du ministre qui voulait proposer ça, et j'ai plus eu l'impression que c'était lui qui voulait idéologiser l'école, puisqu'il trouvait scandaleux qu'on apprenne aux enfants que les gens qui avaient lutté contre la dictature étaient des résistants. Ils considéraient que les gens qui avaient lutté contre la dictature étaient des potentiels dictateurs communistes en puissance et que c'était les deux faces d'une même monnaie et que apprendre autre chose.
Donc ce serait une réécriture de l'histoire ou voilà. Plus d'histoire brésilienne. Mais c'est des écoles publiques ou privées ou c'est...
Ah, ça, ce serait pour le ministère de l'Éducation. Donc
d'accord,
ce serait pour les écoles publiques, quoi. Ce serait pour les programmes scolaires. Voilà, donc un petit peu les mesures qui ont été prises, c'est ça quoi, c'est un ultra-libéralisme économique, et puis quelque chose de très réactionnaire au niveau des mœurs.
Et mais 180 jours, après ces 180 jours, que peut-il se passer ?
Alors, en théorie, dans les 180 jours, Dilma peut être condamnée pour un crime de responsabilité, et à ce moment-là... Michel Temer reste au pouvoir jusqu'à 2018, jusqu'aux prochaines élections.
Il n'y a pas d'élections anticipées qui pourraient être organisées
Non, je pense que la question des élections anticipées, elle va être mise à l'ordre du jour, parce que ce gouvernement n'est pas tenable. C'est-à-dire que là, en 15 jours, ils ont eu 4 crises déjà. Ils sont encore plus impopulaires que le gouvernement de Dilma Rousseff. Et donc, c'est une situation qui... Je ne sais pas comment ils vont tenir 2 ans. Mais d'un autre côté, si Dilma n'est pas condamné, ce qui, rappelons-le, dans les deux cas de figure, ça n'a rien à voir avec la loi. C'est-à-dire que si elle n'est pas condamnée, c'est tout simplement s'il y a 3 sénateurs qui ont changé d'avis.
Oui, c'est une question d'interprétation, voilà. Là, on n'est pas dans...
Mais ce n'est même pas une question d'interprétation. C'est-à-dire qu'ils n'en parlent même pas. Ils sont en train de dire, est-ce que la gauche... va acheter 3 sénateurs, ou est-ce que la droite va acheter ces 3 sénateurs? Enfin, on ne sait pas qui va contrôler ces sénateurs. L'idée, c'est que les enchères montent autour des sénateurs indécis. Parce que c'est ça qui va faire que Dilma Rousseff sera éloignée ou sera ramenée au pouvoir. Alors, moi, j'ai l'impression que...
Est-ce qu'elle pourrait revenir? Si, voilà.
En théorie, elle pourrait revenir, mais comme on a l'impression que les dés sont pipés, je sais pas si la loi va être respectée, s'ils vont pas trouver notre magouille, s'ils vont dire que je sais pas ce qui est possible d'être fait.
Même si c'était la décision était favorable pour elle, est-ce que ce serait tenable pour elle de revenir, refaire un gouvernement?
Si elle revient, qu'est-ce qu'elle fait? Oui. qu'est-ce qu'elle fait de cette présidence de la République? C'est-à-dire qu'à un moment, si, imaginons que parce que trois sénateurs ont changé d'avis et qu'il n'y a plus la majorité nécessaire à sa destitution, elle redevient présidente de la République. Il y a deux tiers des députés qui ont voté pour sa destitution. Ça veut dire qu'il y a une majorité de députés qui ne va pas voter pour les projets qu'elle va proposer. Donc ça veut dire qu'elle va continuer dans une situation en gros de cohabitation où ils s'opposent à tout ce qu'elle propose, où elle accepte leurs propositions. Donc, elle peut revenir, ce sera légitime. Alors, elle a la légitimité démocratique pour revenir, mais le Brésil continue à être ingouvernable. Michel Temer, peut-être qu'il restera au pouvoir, mais le Brésil est ingouvernable, puisque à côté de ça, il ne peut pas faire une sortie publique sans que les gens l'insultent de golpista, c'est-à-dire le meneur du coup d'État. Voilà, c'est une situation très compliquée pour Michel Temer aussi. Et donc, dans cette situation, il y a de plus en plus de voix qui s'élèvent pour parler de faire des élections anticipées. Sauf que les élections anticipées, c'est toujours pas l'idéal, puisque si on change pas les lois sur les financements de partis politiques, sur la proportionnelle, voilà, il y a un certain nombre de choses qui doivent être faites pour faire une réforme politique. Et du coup, l'autre idée, celle qui est l'idée qui est défendue par l'ensemble des mouvements sociaux, des forces démocratiques, etc., c'est l'idée non seulement d'avoir des élections anticipées, mais d'avoir une constituante exclusive. Alors, une assemblée constituante exclusive, qu'est-ce que c'est? Ce serait des députés qui ne seraient élus que pour écrire une nouvelle constitution. Ce serait pas là, ils ne s'occuperaient pas du reste. Et que ces députés pourrait éventuellement écrire des nouvelles règles pour un Brésil apaisé. Ça, c'est la proposition des mouvements sociaux, des mouvements démocratiques. C'est l'accord qu'il y a au sein du Front Brésil Populaire, qui regroupe les principaux syndicats, le mouvement des Sans Terre, le mouvement des Sans Toit, les principaux partis de gauche, etc., etc. Le Front Brésil Populaire, c'est la principale revendication qu'ils ont. Et c'est une revendication qui est très populaire au sein de la société. La question d'ailleurs de la faisabilité de cette proposition, elle n'est pas par rapport au fait que ce serait une proposition de doux rêveurs qui n'intéresse personne. C'est surtout que pourquoi les gens qui sont au pouvoir cirer la branche sur laquelle ils sont? Pourquoi rendrait-il ce pouvoir, puisque c'est ce pouvoir qui les protège, qui leur donne une immunité par rapport aux accusations de corruption?
Et cette proposition du Front Brésil Populaire, elle est quasi nécessaire, ne serait-ce que pour apaiser, on va dire, la situation brésilienne, comme on disait, qui est quand même maintenant très clivée, et on a le lavajato et tout ce processus a fait vraiment ressortir ce qu'il y avait de pire dans la société, dans le fonctionnement politique de la société. Il y a aussi une question d'image, enfin, que ce soit pour l'extérieur, mais même, je pense, pour les Brésiliens eux-mêmes.
Alors, je pense qu'il y a une volonté de trouver une sortie à cette crise qui est partagée par énormément de Brésiliens. Et de la même manière qu'on peut penser que la solution idéale est utopique, il est aussi utopique de penser qu'on peut continuer comme c'est. Donc, a priori, je ne sais pas ce qui va se passer à l'avenir. Mais ça m'étonnerait que le gouvernement Temer reste jusqu'à 2018 sans encombre.
Mais il y avait, quand je disais image, je pensais pas image, se montrer bien par rapport à l'extérieur, mais c'est vraiment pouvoir se regarder dans une glace et se dire je.
Oui, alors ouais, après ça dépend des gens. Il y a des gens qui ont vraiment pas de problème à poignarder leurs amis dans le dos et puis dormir tranquillement le soir, quoi. Oui, il y en a qui, il y a des gens qui ont un cynisme à toute épreuve, voilà. Il y a ceux qui pensent que Lula pourrait revenir, être un petit peu l'homme providentiel qui pourrait revenir. Ceux qui croient que ça pourrait être Marina Silva, qui était la candidate écolo, donc qui a l'avantage de n'avoir jamais été au pouvoir. Il y a ceux qui veulent que le juge Moreau devienne candidat aux prochaines élections. Voilà, il y a pas que la proposition d'une réforme politique qui est entendue dans les rues, quoi. Sachant qu'en fait, on a l'impression aussi que une des raisons pour lesquelles le Parti des Travailleurs est autant diabolisé, c'est que il faut tuer la possibilité d'une cinquième élection du Parti des Travailleurs. Et pour ça, il faut tuer la candidature Lula. On a l'impression que même Dilma, c'était pas Dilma la cible, la vraie cible, c'est il faut que Lula soit inéligible aux prochaines présidentielles. Mmh. C'est pour ça qu'ils cherchent à tout prix des preuves, des choses pour le mouiller. Jusqu'à présent, ils n'en ont pas trouvé. Est-ce qu'ils en trouveront ? Peut-être, peut-être pas, je sais pas. Je pense pas qu'il soit blanc comme neige. Et je pense pas qu'il ait fait pire que les autres non plus.
Parce qu'aujourd'hui, il n'y a aucun homme politique qui ressort grandi de toute cette histoire.
Il n'y a aucun homme politique. Enfin, oui, les hommes politiques qui s'en ressortent grandi, c'est ceux qui ont été tellement discrets qu'ils ne se sont pas fait élire. Quoi.
Voilà.
Mais après, la figure de Lula reste quelqu'un d'extrêmement populaire, puisque même ceux qui pensent qu'il a peut-être fait des magouilles, il y en a qui le soutiennent en disant il a fait des magouilles, mais il a obtenu des avancées pour la population. Et donc on arrive dans la situation où Lula est à la fois l'homme le plus aimé et le plus haï du Brésil. Donc s'il réussissait à être candidat, son élection, bon, s'il se fait élire, il aura une certaine légitimité, mais il y aura toujours la société complètement polarisée au Brésil. Ça, c'est un petit peu inévitable aussi, puisqu'il y a des inégalités tellement fortes que je pense que c'est normal que la société brésilienne soit polarisée.
On aurait pu en parler encore longtemps, mais bon, l'heure passe. Et il y a également une pétition qui court sur change.org, donc sur contre le coup d'État et pour Fora Temer, donc dehors le gouvernement Temer.
C'est la pétition écrite par Autre Brésil.
Et appuyé par un certain nombre d'intellectuels,
notamment le MD18, Mouvement démocratique 18 mars.